Hello, hello! Bienvenue sur Famille et Voyage, le podcast dédié aux familles qui aiment parcourir le monde. Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 12 et 16 ans, tombée dans la marmite des voyages toute petite et complètement addicte depuis. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous! Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux quatre coins de la planète sans prendre l'avion. Enfin, pas tout de suite. Dans ce podcast, on va parler itinéraire, à pied, à vélo, en voiture, en camping-car, tour du monde et expatriation. Les parents voyageurs vont vous donner plein d'idées d'activités à faire avec les enfants, leurs bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin et, bien sûr, leurs meilleurs ratés. Je vous proposerai également des reportages entre récits, témoignages et interviews et des formats plus courts, mes top 5 des activités à faire en famille dans une destination et les galères ton voyage, histoire d'éviter 2-3 trucs un peu chiants sur le moment. Bon allez, ça suffit le blabla, il est temps de passer à ma nouvelle conversation. Maman aventurière de deux enfants, Caroline a créé Voyage Family en 2015 pour partager sa passion du voyage avec les enfants et vous aider concrètement à organiser vos vacances et vos week-ends en famille. Car pour Caroline, les enfants qui voyagent en conscience seront les citoyens curieux et ouverts dont nos sociétés ont besoin. Ça vous dit quelque chose? C'est normal! Caroline nous a raconté ses chouettes vacances en famille à Lacanau dans l'épisode 35. Ok, ça date un peu, il était temps qu'elle revienne. Cette fois, Caroline nous emmène au Mozambique. Elle y a fait un road trip de 3 semaines avec son mari et ses enfants de 11 et 14 ans l'été dernier, de Maputo à Vilanculos. Ce pays, encore méconnu, est une pépite qui regorge de spots à baleines, de dunes incroyables et de plages de rêve. Allez, c'est parti pour le carnet de route de Caroline au Mozambique. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Caroline.
Bonjour Stéphanie.
Comment ça va?
Eh bien écoute, très bien, je te remercie.
Où est-ce que tu te trouves aujourd'hui?
Je suis en télétravail à Lyon, chez moi.
C'est bien le télétravail.
C'est une des bonnes conséquences du Covid. S'il n'y en avait qu'une seule, peut-être que c'est celle-ci.
Je crois, absolument. Bon, c'est la deuxième fois qu'on fait un podcast ensemble et visiblement, c'est un exercice qui t'a plu. T'as pas un petit truc à nous annoncer?
Écoute, si. J'ai décidé de lancer le podcast de Voyage Family qui va
sortir
le 29 mars, donc c'est tout bientôt. Et je suis vraiment hyper contente de me lancer sur cet exercice que tu connais très bien et qui est une découverte pour nous, mais on va vraiment essayer de le faire dans le même esprit que Voyage Family et j'espère que ça plaira aux gens qui nous suivent et qui sont fans de Voyage en Famille.
Ouais, j'ai aucun doute. Est-ce que tu... T'as un tout petit truc qui pourrait nous aiguiller sur ce que ça va être, sur quoi tu te lances, peut-être un format ou une destination en particulier?
Oui, bien sûr. Donc, ça va être 100% dédié à la France ou en tout cas à aux proches frontières, avec des expériences inattendues qu'on essaye de dénicher pour donner envie aux parents de partir en escapade et d'ouvrir, toujours dans cette idée d'ouvrir un peu le regard des enfants sur le monde avec des activités à faire intelligentes et ludiques, en tout cas étonnantes. C'est un peu le but de ce podcast avec un format très court, 10 minutes, parce qu'on sait qu'on n'a pas trop de temps, nous, les parents.
C'est ça. Et en même temps, il y a tellement de choses en France qu'on ne connaît pas et auxquelles on ne pense même pas. Donc avoir 10 minutes de Voyage Family qui nous raconte que cet endroit pas si loin de chez nous pour être un peu sympa à découvrir en famille, c'est trop cool.
Eh ben écoute, c'est l'idée, j'espère. Voilà, ça, tu me diras si ça te plaît.
J'en suis sûre. Rendez-vous le 29 mars.
Exactement.
Bon, on va partir un peu plus loin aujourd'hui que la France. Mais avant de partir au Mozambique, est-ce que tu peux nous raconter ton premier voyage avec tes enfants?
Alors, le premier grand voyage, la première fois qu'on est parti en dehors de l'Europe, c'était au Sri Lanka. Oh. Les enfants avaient 2 ans et 4 ans. Et ça a été vraiment un déclic. Enfin, en fait, on est parti parce que c'était un besoin personnel où j'ai dit à mon mari un jour, j'ai besoin de repartir dans des contrées un peu plus lointaines, des paysantes. C'était vraiment mon besoin à moi. Et en arrivant là-bas, je me suis rendu compte que c'était ce qui pouvait arriver de mieux aussi à la famille dans son entièreté. Et à nos enfants, en l'occurrence aussi, quand je les ai vus s'adapter aux contraintes d'un road trip, s'adapter à la différence, s'adapter à l'inattendu. Et puis, quand j'ai vu aussi le bon temps qu'on a passé tous les quatre et la manière dont ça nous a vraiment ressourcés pour l'année entière, je me suis dit que c'était vraiment une chance incroyable et que ça serait dommage de pas... j'allais enchaîner sur pourquoi j'ai créé Voyage Famille, parce que la réalité, c'est que c'est suite à ce voyage-là que je me suis dit, j'ai envie de montrer aux parents et de peut-être pousser ceux qui n'osent pas le faire à y aller, puisque on a vécu un moment si magique, l'idée, c'était de pas forcer tout le monde à le faire, hein, mais en tout cas, ceux qui auraient envie mais qui n'osent pas, de les aider à sauter le pas, en fait.
Oui, et on sait que beaucoup n'osent pas avec plein de croyances. Ils sont trop petits, on n'aura pas le temps, on ne saura pas faire, et s'il est malade.
Exactement.
Et d'avoir un endroit, enfin un site en tout cas au départ, qui te dit « mais si c'est possible », je pense que ça aide vachement, ouais.
Ouais, j'ai des retours dans ce sens, et c'est une des plus belles récompenses, c'est d'avoir des gens qui me disent « on est parti au Mexique grâce à vous, on pensait que c'était impossible, mais on a trop aimé, on rêve de repartir maintenant ». Et c'est vrai que le premier voyage, c'est le plus dur.
Faut sauter le pas.
Voilà, et ensuite on se rend compte que c'est hyper facile et que c'est surtout génial.
C'est ça. Comment tu définirais la voyageuse que tu es aujourd'hui ?
Je crois que ce qui nous anime, enfin je dis nous parce qu'avec mon mari et nos enfants, on est exactement pareil, c'est la curiosité. On va jamais forcer, enfin, c'est pas qu'on va jamais là où les guides nous disent d'aller, c'est qu'on va dans un endroit et ensuite on laisse parler notre instinct, et si l'instinct nous dit de partir à droite, on part à droite. Mais c'est un vrai moteur chez moi, la curiosité, dans tout, hein, que ce soit dans dans ma vie personnelle et dans le travail, c'est ça la première chose qui me fait vivre. Et c'est vrai que du coup, c'est aussi pour ça qu'on est passionné de voyage, c'est que ça permet de nourrir cette envie de curiosité et d'aller voir un peu plus loin ce qui se passe à droite ou à gauche.
Et il y en a des choses à voir. Bon, on va partir au Mozambique alors.
C'est parti.
C'est où déjà le Mozambique ?
Alors, c'est un pays d'Afrique qui est situé entre l'Afrique du Sud, qui est au sud du Mozambique, et la Tanzanie, qui est au nord du Mozambique. Mais il y a finalement 2000 kilomètres, hein, entre la Tanzanie et l'Afrique du Sud. Le Mozambique est un très, très grand pays, en tout cas très, très long, puisqu'il y a 2000 kilomètres de côte, mais pas très large.
Ok. Est-ce que tu le connaissais déjà, ce pays, ou c'était la première fois ?
Ah non, c'était la première fois qu'on y allait. Je suivais des familles qui étaient en voyage au long cours en Afrique. Et il y en a eu deux de suite qui m'ont quand même vraiment titillée avec leurs images. Et je me suis dit, c'est exactement de ça dont je rêve, grâce à ces deux familles.
C'est qui les deux familles, si tu peux les citer ?
Alors, j'en étais sûre. Là, si je les avais en tête, il y a Ubuntu, je veux pas les écorcher. Omok Family. Et Ubuntu, ouais, Ubuntu Overland, voilà.
Ok, Omok, je les suis aussi, mais l'autre, je connais pas, du coup, j'irai regarder. Entre le moment où tu t'es dit, c'est trop cool, on y va, et le moment où vous y êtes allé, combien de temps il s'est passé ?
Je crois qu'on a organisé ce voyage en décembre, janvier, pour août, l'année suivante.
Et vous êtes resté combien de temps sur place ?
On est resté 3 semaines.
Comment tu as organisé ton voyage ? J'imagine un peu avec les itinéraires donc, de ces deux familles, mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui t'ont permis de le monter ?
Non, alors c'est la première fois qu'on est passé par une agence de voyage. En fait, je ne sais pas si tu l'as vu sur le Voyage Family, mais je travaille avec des partenaires, on aide les familles, je redirige les familles et les parents qui cherchent à être accompagnés dans l'organisation de leur voyage. Donc, j'ai un pool d'agences partenaires. Et en fonction des demandes, je les dispatche auprès de mes partenaires. Et là, j'ai une agence partenaire qui travaille sur l'Afrique australe. Et donc, c'était aussi une manière de les faire travailler et de découvrir ce qu'ils proposaient sur le Mozambique pour que derrière, je puisse aussi renvoyer les familles vers cette agence pour le Mozambique.
Est-ce qu'il y a des choses à savoir avant de partir au Mozambique ?
Alors, je dirais les deux choses les plus étonnantes, finalement, qui sont à la fois dans le positif et dans la petite, pas négatif, mais la petite chose à savoir. La première, c'est que j'ai trouvé que c'était un pays d'une douceur. C'est-à-dire que quand on va en Afrique, On imagine tout de suite le monde, la cohue. Là, c'est d'une douceur qui est assez rare. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'autres pays où on a vécu ce calme-là. L'autre chose à savoir, c'est qu'il n'y a qu'une seule route bitumée, avec une route bitumée avec des nids de poules. Et qu'ensuite, une fois qu'on a, donc on navigue sur cette route bitumée, mais ensuite on bifurque tout le temps sur la côte. Et là, quand on bifurque sur la côte, on est dans des pistes ensablées. Qui peuvent durer de 10-15 minutes de piste à 2 heures, 2 heures et demie. Et là, il faut avoir envie de conduire un 4x4 dans des pistes plus ou moins faciles à conduire. On s'est ensablé souvent, mais ça fait aussi partie du voyage et on s'est toujours désensablé sans problème. Et quand on n'y arrivait pas, on appelait la personne chez qui on logeait, qui venait nous chercher avec nous sortir de là avec son 4x4. Ça fait partie du voyage. Si on n'a pas envie de ça, il ne faut pas aller au Mozambique. Si, comme nous, on aime un peu l'aventure et que ça fait rigoler tout le monde de sortir et d'aller désensabler la voiture, c'est l'éclate. C'est parfait.
Quel itinéraire vous avez suivi ?
Du coup, on a longé la côte de Maputo, donc qui est la capitale du Mozambique, jusqu'à Vilanculos, qui est, je dirais, la seule grande ville, entre guillemets, qu'on ait vue entre Maputo et Vilanculos. Et voilà, on est resté 3 semaines, à savoir que les gens font souvent Maputo, Vilanculos, Vilanculos, Maputo pour rendre la voiture à Maputo. L'avantage de passer par une agence, c'est qu'ils ont la possibilité de nous proposer de laisser la voiture à Vilanculos, qui a un coût bien évidemment supplémentaire, mais qu'il faut ramener au fait que on perd quasiment 2 jours à redescendre, donc c'est de l'argent, on dort sur la route, on mange sur la route, on est obligé de redescendre à Maputo et éventuellement de repasser une troisième nuit à Maputo en fonction de quand est-ce qu'est le vol retour. Et voilà, on conduit pendant 2 jours pour redescendre la voiture.
C'est un choix.
C'est un choix, mais quitte à se payer un voyage comme ça, qui est un voyage quand même assez cher, qu'on fait qu'une fois dans sa vie, à mon avis, ça vaut le coup d'y aller, de ne pas mégoter sur les quelques euros que ça génère en plus, en fait.
Donc, vous avez pris l'avion, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres moyens pour y aller. C'est combien d'heures ?
Combien d'heures ? Je dirais qu'on a mis, tout compris, porte-à-porte, peut-être une 20aine d'heures, en sachant qu'il y a 2 escales, et on a passé du temps en Afrique du Sud, donc je ne saurais plus te dire vraiment le détail, mais c'est un pays qui se mérite. C'est aussi pour ça qu'il y a très peu de touristes. C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'infrastructures sur place, c'est sûr. Mais y arriver prend du temps.
Donc après 20 heures de voyage, vous y arrivez, vous sortez de l'aéroport. Bon, ce n'est pas toujours là où on se rend compte vraiment de la destination, mais c'est quoi vos premières impressions ?
Écoute, alors je parle pour moi, hein, mais c'est vrai que j'étais tout de suite étonnée. On est arrivé un dimanche. J'ai tout de suite été étonnée de la coolitude d'une capitale africaine, avec pas tant de monde que ça sur la route. Voilà, et un plaisir fou de retrouver l'Afrique. C'était vraiment mon rêve d'y retourner après un voyage au Bénin que j'avais pu faire il y a quelques années, pour Voyage Family déjà. J'étais sans mes enfants à l'époque et je rêvais de leur montrer l'Afrique, enfin de les emmener sur ce continent-là. Ils connaissent très bien l'Afrique du Nord, mais c'est pas du tout pareil. Donc voilà, une grande joie d'arriver là et de se dire que c'est vrai que ça fait partie de ces noms que je trouve magiques, en fait, Maputo. Pour moi, je pensais jamais arriver un jour à Maputo. Et il y a toujours cet effet de se dire « Waouh, ça y est, on y est ».
Et qu'est-ce qu'on fait à Maputo quand on arrive ?
Alors, c'est pas une ville... comment dire ? Il n'y a pas énormément de choses à faire à Maputo. D'ailleurs, on y est resté, je pense, du coup, 1 journée et demie, le temps d'arriver. Et deux nuits, on balade dans le centre-ville. Il y a des beaux vestiges du passé colonial portugais. On avait pris un guide qui parlait français pour nous parler un peu du centre. Mais franchement, c'est pas une ville où on reste des jours, à mon sens, ou alors on est complètement passé à côté. Mais voilà. Après, c'est pas désagréable non plus. Je conseillerais pas forcément de partir direct non plus, d'autant que il faut enquiller derrière pas mal d'heures pour aller retrouver, enfin pour atteindre le premier endroit sympa pour s'arrêter. Donc ça vaut quand même le coup de s'arrêter deux nuits comme nous pour un peu atterrir.
Oui, c'est ça, pour vous remettre du voyage et rentrer dans l'ambiance.
Ouais. Et on avait une super guest house qui s'appelait Fig Tree, qui est une maison, il doit y avoir 3 ou 4 chambres, hein, avec une jolie piscine. Donc, c'est pas du tout désagréable de s'arrêter là-bas. Et en plus, on a fait une rencontre, une maman solo avec sa fille, avec qui on a sympathisé dès le début. Et en fait, bah, c'est la magie des road trips, c'est qu'on s'est retrouvés souvent.
Ah, très chouette.
Et ça a fait partie d'une jolie rencontre du séjour. Et les enfants, voilà, se sont tout de suite fait du coup une copine. Et pour la fille, cette petite qui voyageait toute seule, bah, c'était chouette de trouver directement aussi des copains.
Carrément.
Qu'on a retrouvés voilà, plusieurs fois pendant le séjour.
Ok. Après ce repos bien mérité, vous allez où ?
Alors, on est monté directement dans un lieu qui s'appelle le lac Namba Valley. Il faut savoir qu'il y a énormément d'eau douce au Mozambique. Ça fait vraiment partie, tu vois, quand je disais qu'il y avait deux choses qui m'avaient marqué. En fait, celle-ci m'a énormément marqué aussi, c'est qu'il y a la mer, il y a il y a souvent des dunes, donc un banc de sable. Et derrière ce banc de sable, il y a très, très souvent, en tout cas sur la portion entre Maputo et Vilankulo, ce qu'on a pu faire, des lacs, des retenues d'eau douce. D'ailleurs, on boit l'eau du robinet, hein, au Mozambique, parce qu'il y a beaucoup d'eau douce filtrée par les dunes. Nous, les touristes, hein, on boit l'eau du robinet. Et donc, on s'est arrêté sur un de ces premiers lacs. C'était plus une étape logistique, puisqu'il n'y a pas énormément de choses à faire, mais ça permet de couper la route, puisqu'ensuite, sinon, il y a déjà peut-être 4 heures de route pour arriver au lac Namba Valley. Et qu'ensuite, il faudrait encore rajouter un certain nombre d'heures pour arriver au point d'intérêt suivant. Mais que c'est fort agréable quand même. Et puis que c'est une première prise en main. On part de Maputo, on conduit à gauche. Donc, il faut se faire...
Oui, il faut s'y habituer.
Il faut s'y habituer. Il faut savoir que, voilà, il y a cette route bitumée dont je parlais, qui est la route principale, qui est quand même... Il y a un peu du monde sur cette route. Il y a beaucoup de policiers. Alors, si tu me permets un aparté, on avait beaucoup de craintes, en tout cas en partant, on avait peur de se faire arrêter pour tout et n'importe quoi par la police et de se faire racketter, entre guillemets. Hein.
Ouais.
Il faut savoir qu'il y a une limitation de vitesse très stricte au Mozambique et que si vous ne dépassez pas cette limite, vous ne vous ferez jamais arrêter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abus de la police. En revanche, il y a des flics partout sur la route. Et dès que vous dépassez la limite, vous pouvez être sûr qu'il y a un policier qui sortir de quelque part, qui va dire « Eh, je vous ai bien eu !» Et là, bien évidemment, il va vous demander plus que ce qu'il demande à un local. C'est pas non plus, ça nous est arrivé une fois, ça nous a coûté 20 euros, ce qui est très cher pour là-bas. Mais c'est le jeu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser la limite. Et si on ne dépasse pas la limite, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème avec la police.
Ben c'est bon à savoir.
Il y a des tronçons où c'est limité à 50 et c'est très énervant, ou peut-être 60, je ne me souviens plus. Et on aurait envie de se dire, on va accélérer parce que c'est bien en amont des villages, ces limitations, et bien après. Et des fois, on a envie de se dire, bon, allez.
On y va.
Je vous conseille de ne pas le faire, ou alors vous avez une chance sur deux de vous faire arrêter. Mais encore une fois, ce n'est pas non plus très, très grave. Et il n'y a pas, ce n'est pas une corruption terrible qui va vous gâcher vos vacances. Mais c'est bon à savoir. Donc le lac Namba Valley, c'est une première prise, une première rencontre avec cette route bitumée unique et une première rencontre avec les pistes de sable où il faut bifurquer pour aller à son hébergement.
Et comment ça se passe, cette première
Il se trouve qu'on n'a pas eu... On s'est fait un peu avoir par l'agence de location. L'agence de voyage avait demandé un 4x4 avec un certain bas de caisse, etc. Nous, on ne s'est pas méfié. C'était pas exactement la voiture qu'on nous avait dit qu'on aurait, mais on pensait que c'était un équivalent. Et en fait, on n'avait pas une voiture. On avait une voiture beaucoup trop basse. Donc nous, on s'est bien ensablé. Mais ça a été, on a bien rigolé. Et puis, il y a un instituteur qui passait par là avec sa mobylette qui nous a aidés. C'est aussi l'occasion de rencontrer des gens. Hein. Et au final, on est arrivé sans encombre plus que cette demi-heure qu'on a pu perdre sur la piste dans notre hôtel, enfin guest house sur le lac. Et là, bah, on a fait du paddle, on a pu se baigner. C'était vraiment très, très agréable. Et les enfants, ouais, les enfants sont directement sortis. Enfin, on a été se balader un peu dehors. Ils se sont directement fait des copains. Ils sont mis à jouer au foot parce qu'on ne se déplace jamais sans un ballon de football. Puisqu'on voilà, on a deux
passions. Ça marche bien.
Et ils sont tout de suite fait des copains. Ils ont joué au football avec les gamins du village d'à côté. Voilà, on les a laissés tout seuls. On est, parce qu'avec mon mari, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on ne va peut-être pas rester là toute la journée. Ils sont rentrés tout seuls à pied du village jusqu'à l'hôtel. C'est vraiment...
C'est safe.
C'est hyper safe, en fait. C'est hyper... C'est la campagne, hein, le Mozambique. Donc, comme dans toutes les campagnes, c'est vrai qu'il y a moins de problèmes, souvent.
Vous y restez juste une nuit ou vous restez un petit peu ?
On reste juste une nuit. Et après, on a un autre point en ligne de mire, alors qui est un endroit qui, justement, l'agence de voyage nous a regardé avec des gros yeux quand on lui a demandé.
Ouais.
C'était vraiment un endroit qu'on rêvait de faire grâce à la Omok Family. Alors, Kisiko, c'est une petite ville sur la route principale, mais c'est aussi un hébergement qui s'appelle Bulbul Backpacker, qui se trouve à peut-être, je dirais, 20 minutes de la route principale sur une piste, hein, et qui est, à mon sens, un stop incontournable du voyage, puisqu'on dort, en fait, chez Diderik et Arsenia, qui est mozambicaine, et leurs trois enfants. Donc, on est vraiment au cœur de cette famille. C'est un hébergement hyper convivial. Le soir, on mange avec Diderik, Arsenia et leurs enfants. On mange avec les autres hôtes. C'est des cabanes en bambou, hein. C'est vraiment assez sommaire, entre guillemets, puisqu'on a tout le confort dont on a besoin. Et on est en haut d'une dune avec la mer d'un côté, qu'on ne voit pas, mais qui est juste derrière, et le lac de Kisiko de l'autre côté, franchement. Et le soir, bah, on est au coin du feu, on papote avec les gens qui sont là, qui sont, franchement, nous on y est resté peut-être trois nuits chez Arsenia et Diderik. On rencontre des gens atypiques, puisque pour se retrouver là, franchement, faut avoir choisi. C'est forcément des gens avec des histoires rigolotes. Voilà, donc on a fait des belles rencontres.
Quand tu dis il faut avoir choisi d'aller à cet endroit, c'est que toi, tu l'as trouvé sur les réseaux sociaux, parce que tu suivais des familles. Les autres, ils arrivent là comment ?
C'est vraiment du bouche à oreille. On a rencontré une famille qui vit au Mozambique depuis 15 ans, avec leurs 7 ou 8 enfants, je ne saurais plus compter, qui, lui, il a monté une école de menuiserie, et elle a monté un dispensaire, et ils sont au fin fond du Mozambique avec leurs enfants. Ils ont dû créer leur propre école pour que leurs enfants puissent avoir accès à une éducation de qualité. Voilà, ils ont dû connaître par bouche à oreille. C'est les anciens réseaux sociaux. Et puis, il y avait aussi un blogueur qui venait un blogueur qui venait de je ne sais pas quel pays, qui voyageait depuis 10 ans à pied. Et qui, pareil, voyage en disant où est-ce qu'il faut aller. Enfin, essaye de trouver les bonnes adresses un peu hors des sentiers battus. Et on lui a dit, il faut venir là. Et il est venu là. Il est arrivé à 11h du soir, affamé. Enfin bref, donc c'est ça en fait, aussi cette adresse, c'est aussi ça. Les enfants ont adoré, nous aussi. Et voilà, après, il n'y a qu'un seul bungalow avec une douche. C'est sommaire, hein, mais on a notre petite cabane avec notre vue sur le lac, et on est franchement pas malheureux.
Tu as dit vous êtes restés trois nuits, qu'est-ce que vous faisiez de vos journées ?
On a fait des randos sur le lac, des randos sur la mer. Il faut savoir qu'au mois d'août, là où on y était, c'est la pleine saison des baleines.
Oh là là.
La pleine saison des baleines, depuis le bord de la plage, on voit des centaines de baleines. C'est du délire, c'est-à-dire que ce n'est même pas imaginable combien on peut en voir à la minute.
Waouh.
Alors, elles sont plus ou moins proches du bord, mais c'est fantastique. Et du coup, faire des randos en regardant les baleines, ça marche quand même, hein.
Ah, il y a pire.
Il faut savoir que le Mozambique, ce n'est pas un pays du coup développé. Il n'y a pas des milliards d'activités de dingue à faire. Hein. On se balade, on profite des gens qu'on rencontre.
Tu prends le temps.
Ouais, on prend le temps. On se lève très tôt puisqu'on dort souvent dans des petits bungalows avec pas forcément toujours beaucoup de volets. On se couche super tôt parce qu'il y a absolument rien à faire le soir à part faire des jeux avec ses enfants et boire des coups, on papote, c'est sympa, mais on se couche franchement à 9h, 10h, on se couche alors que nous, on est des couches tard. Hein. ça nous a fait bizarre le premier soir. Mais on s'y fait très vite et du coup, on se lève tôt et du coup, on profite du lever de soleil. Moi, j'ai fait quasiment tous les levers de soleil en 3 semaines. On se balade, voilà.
On apprécie chaque minute.
Exactement.
Et on n'a pas toujours besoin de multiplier les visites, les activités pour avoir l'impression de découvrir une destination. Quoi.
Non, c'est sûr que ce n'est pas une destination pour des gens qui aiment enchaîner les visites. Encore qu'on ne s'est jamais embêté, on n'a jamais non plus fait rien dans notre bungalow. Hein. On a toujours été dehors à se balader.
Et donc, vous quittez ce petit paradis et vous allez où ?
Alors, on va dans un autre petit paradis, un peu plus loin toujours. Donc, on continue de remonter la côte, qui s'appelle les dunes de Dovella, un autre endroit assez incroyable, puisque les dunes de Dovella n'existent que touristiquement, en tout cas parce que un homme, Thomas, a décidé d'y implanter une guest house. C'est même lui qui a donné le nom dunes de Dovella hein, à ce lieu, voilà, qui est un endroit magique avec des dunes sublimes. Et là, pareil, on regarde les baleines, on a fait des randos jusqu'à un autre lac où il a mis un petit canoë, Thomas, donc on marche une petite heure et après on a fait du canoë sur le lac. On peut faire du bodyboard, c'est un endroit où la mer est quand même un peu plus calme et donc on a pu faire du bodyboard, ils en prêtent.
Elle est plus calme, ça veut dire que jusqu'à présent, elle était tellement agitée que vous ne pouviez pas vous baigner ?
Oui, c'est vraiment, il y a des endroits où la mer n'est pas, où elle est un peu dangereuse, avec des courants, c'est l'océan. Hein, par exemple, à Kisiko, nous, on ne s'est pas baigné. En fait, c'est des plages sublimes avec personne. Hein, et c'est vrai qu'on n'avait pas spécialement envie de prendre un risque quelconque.
Évidemment.
On se baigne dans les lacs, en fait, qui sont derrière. Hein. On s'est baigné dans le lac à Kisiko. Là, on a pu quand même se baigner dans la mer aux dunes de Dovella et aussi dans le lac qui est juste à côté. Il y a toujours un lac à côté, en fait.
Ça, c'est cool.
Ouais, c'est vraiment chouette.
D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'était quoi la température
Alors, c'est l'hiver, donc c'est l'hémisphère sud, hein, donc on est en décalé avec la France. Mais il fait extrêmement bon, il fait à peu près 25 degrés.
Parfait.
Et le soir, il fait plus frais, c'est-à-dire que le soir, on est en jean et pull.
Ok.
C'est vrai que nous, on aime bien la chaleur, globalement, ça ne nous gêne pas, mais là, on était hyper contents d'être dans ces températures-là.
Donc là, vous restez combien de temps à ces dunes de Dovella
3-4 jours.
Aussi.
Ouais, on essaie toujours de faire des stops, ça c'est notre manière de voyager, c'est qu'on préfère faire moins de stops et rester à chaque fois au minimum 3 nuits dans les endroits qu'on visite.
Pour pas vous fatiguer plus que nécessaire aussi.
Ouais, et puis c'est comme ça qu'on profite vraiment des lieux.
Balade, là tu nous as dit, il y avait le canoë aussi en plus.
Ouais.
Vous passiez tout votre temps dehors.
Ah bah ouais, on avait même tout le temps le bruit des vagues, enfin souvent, alors en tout cas d'une de Dovella c'est sûr. À Kisiko, je crois qu'on ne l'entendait pas vraiment du bungalow, mais on est dans des petits bungalows, hein, des petites cabanes, des petites cahutes, donc on entend les oiseaux, on entend le bruit de la nature.
Non mais les baleines, quand tu me dis des centaines de baleines, je veux y aller.
Ah ouais, non, c'est incroyable.
Je ne savais même pas que c'était possible qu'il puisse y avoir autant de baleines en même temps et proches que tu les vois, quoi.
Ah non, mais c'est parfois, elles étaient, je ne sais pas, je ne me rends pas compte, c'est difficile
d'estimer la distance.
Mais vraiment, parfois, on avait l'impression qu'elles étaient à, je sais pas, peut-être à 50 mètres du bord. C'était incroyable. Wow. Et ce n'est pas une de temps en temps, il suffit de regarder. En fait, il suffit de prendre le temps de regarder la mer et là, c'est un festival.
Mais c'est ça qui est bien quand tu fais des étapes longues, c'est que tu peux prendre le temps. T'es pas dans la surenchère de tout voir tout d'un coup. Du coup, après, vous allez où ?
Alors, on va dans un endroit qui est un petit peu plus touristique, qui s'appelle Tofo, qui est un village de pêcheurs et de surfeurs.
Ah.
Quand je dis plus touristique, c'est-à-dire que là, quand on parle de Kisiko ou de la dune de Dovella, à part l'hébergement, il n'y a rien. On est dans un côté d'un village, mais il n'y a même pas un endroit pour acheter... Il y a très peu de boutiques au Mozambique, hein. Enfin de boutiques, quand je parle de boutiques, je parle d'épicerie, c'est-à-dire qu'ils n'achètent rien, c'est un pays très pauvre, on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est un pays très pauvre, les gens n'achètent rien en fait. Il n'y a même pas un endroit, un jour on voulait faire un pique-nique, il y a certains endroits où il n'y a pas d'endroit pour acheter de la vache qui rit et du pain, quoi. Ils mangent ce qu'ils produisent. Voilà, donc Tofo, c'est une petite ville avec quand même, pour le coup, je ne sais pas, peut-être une vingtaine d'hébergements, il y a des restaurants.
Donc, la civilisation.
Voilà, la grande civilisation, mais ça reste vraiment hyper cool et il n'y a pas, toujours pas grand monde et c'est pas du tout une station balnéaire, quoi. C'est un petit village de pêcheurs qui s'est... voilà, qui s'est bien développé grâce au tourisme. Il y a un spot de surf vraiment top pour les... Enfin, en fait, j'allais dire pour les débutants, entre guillemets, mais il y a aussi des très bons surfeurs qui surfent là-bas parce qu'il y a différents spots. En tout cas, nous, on est des surfeurs débutants, c'est-à-dire qu'on a le niveau pour savoir prendre une vague et se mettre debout, mais ça ne va pas bien, bien plus loin. Et c'est parfait, voilà, pour des familles comme ça, c'est parfait. Du coup, bah là, c'est vraiment... pour le coup, à Tofo, il y a vraiment plein d'activités à faire. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui font le premier stop, qui ne vont pas à Kisiko, qui ne vont pas à Dovela, qui montent directement à Tofo, parce que là, il y a du restaurant, il y a de l'hôtellerie. À Tofo, c'est un grand, grand lieu, un haut lieu de la plongée sous-marine. Donc, si vous êtes fan de plongée sous-marine, c'est sûr que voilà, c'est un bon endroit. Il y a de l'observation des baleines. On a été visiter une usine de production d'huile de coco. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de... C'est animé. Et là, pour le coup, on y est resté un peu plus. Je crois qu'on y est resté 4 jours.
Et vous, donc, vous avez, en plus du surf et de vos balades, cette petite usine. Oui, vous aviez de quoi remplir vos 4 jours. Et vous avez profité des restaurants, j'imagine.
Il y a des super restaurants. Il y en a un qui est pas le plus touristique. Où on mange de la... Enfin, c'est spécialité de fruits de mer. Et on a mangé de la langouste pour 10 euros, je pense. Et il y a une super pizzeria. Alors, quand je dis pizzeria, c'est un boui-boui. Hein. Je crois qu'il y a 4 tables. Mais enfin, voilà, on peut manger. C'est vrai que c'est un endroit un peu plus touristique, quoi. Donc, on peut manger.
Ça fait du bien aussi.
Non, et puis c'est fait avec... vraiment, c'est pas du tout... c'est fait à la mozambicaine. Hein. Ça reste quand même...
Oui, t'es pas sur la Côte d'Azur non plus.
Eh non. Non.
Ça tombe bien. Vous partez où après ?
Alors, après Tofo, on a fait un lieu qui ressemble un peu à Dovela, qui s'appelle Travessia Beach Lodge. C'est pas forcément un endroit... Enfin, c'est pas que je le conseille pas, c'est qu'il fait doublon un peu avec Dovela. C'est un peu le même genre. Donc, c'est très bien fait, mais c'était pas nécessaire. Après, ça permet de couper quand même la route. Hein. On s'est baladé, on a fait, ceci dit, une super balade dans le village à côté avec un des salariés de l'hôtel qui vivait dans ce village et donc qui connaissait 100% des gamins, 100% des gens. Et on a passé peut-être 3 heures dans ce village avec lui et c'était malgré tout un super stop aussi pour ça. Et puis, je sais pas... Enfin, vous pouvez aller regarder les photos sur Voyage Family. C'était quand même un endroit magiquissime, avec une plage de rêve, perdue au milieu de la nature, des cocotiers. Et c'est toujours des petits bungalows posés quasiment sur la plage, donc ça reste magique. Mais c'est vrai que nous, on avait 3 semaines. Pour des gens qui ont moins, je pense que faire soit Dovela, soit Travessia, c'est bien, quoi. C'est déjà très bien.
Eh ben, on continue alors.
Alors, le stop d'après, c'est un autre stop où l'agence m'a regardé avec des yeux en disant « Vous êtes vraiment, vraiment sûre ?» Enfin, l'agence, ils ont été parfaits, hein, mais c'est vrai qu'il y avait quand même ces deux stops où je leur ai dit « En fait, ça, vous débrouillez comme vous voulez, mais vous m'intégrez Kisiko et Pomene, qui est un endroit que j'avais découvert aussi grâce à Omok Family et Ubuntu aussi. Donc, quand je leur ai demandé, parce que j'avais communiqué avec ces deux familles, hein, je leur ai demandé quels étaient les endroits immanquables au Mozambique. C'était les deux, c'était ces deux spots-là. Alors d'abord, il y a 2 guest houses à Pomene, aucun restaurant, aucun rien en fait. Hein. Et alors là, on est dans une réserve naturelle qui est à 2h30 de route, enfin non, pas de route, pardon, 2h30 de piste de la route principale, avec là pour le coup des sacrées pistes. Donc nous, ça faisait déjà 15 jours qu'on était au Mozambique. Puis on avait entre-temps, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand bien sûr on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la bonne voiture, on a appelé l'agence qui a fait un
premier... Ah, vous avez changé ?
Ah non seulement on a changé, mais ça nous a pris zéro temps puisque l'agence de voyage, hein, c'est l'avantage de passer parfois par une agence de voyage, c'est qu'ils ont appelé l'agence de location de voiture en disant « Vous vous débrouillez comme vous voulez, mais demain, je veux que vous ameniez une voiture à cet endroit-là. Voilà.
Et ils l'ont fait.
Le lendemain, à 15h, on avait un monsieur qui disait « Voilà les clés de votre nouvelle voiture, je reprends l'ancienne. » Et ça, clairement, je ne sais pas si on aurait réussi. C'est vrai que les agents de voyage, ils ont leur contact.
Mais bien sûr.
On a réussi. Donc, on avait une voiture, enfin, c'était un Duster, hein, c'était pas non plus une voiture de dingue, mais en tout cas, c'était une voiture avec un bas de caisse suffisamment haut pour que...
Pour passer plus facilement.
On se passe plus facilement. Et puis, du coup, bah, mon mari avait quand même eu 15 jours pour se faire la main. Et donc là, à Poméné, ça a été nickel. On s'est même pas ensablé, mais c'est une vraie... C'est une vraie aventure. Par contre, la piste est sublime. On a croisé zéro voiture en 2h30. Et on arrive dans un village perdu et on a dormi dans une petite guest house, pareil, hein, c'est sommaire, c'est des petites cabanes, mais chez Yann, qui s'est défense de mon comment. Il a réussi à se poser là, puisque quand même tous les jours, Yann, ou alors tous les deux jours, il fait les 2h30 de piste pour retourner à un village, acheter à manger et chercher de l'eau.
Donc il fait 5h.
Ouais, alors lui, il va plus vite que nous quand même. Il ne fait pas 2h30, et pour autant, c'est son métier, c'est quand même de faire beaucoup de routes. Et voilà, et Yann est adorable, et donc c'est un ancien surfeur pro. Donc Poméné est aussi un spot de surf, mais bien évidemment, il n'y a pas de magasin pour louer de planches, hein, qu'on soit bien clair. Et donc Yann nous a prêté, soit il faut venir avec ses propres planches, soit Yann nous a prêté ses planches de surf. Il nous a emmenés sur le spot, il nous a expliqué comment il marchait, ce spot. Et après, on était autonomes, mais on a pu du coup surfer, pareil.
Trop chouette.
Ouais. Et là, on est resté, je dirais, trois jours aussi.
Encore des belles balades à faire?
Ouais, peut-être un petit peu moins. La nature est peut-être moins luxuriante, mais le village est vraiment sympa. En fait, il y a de la mangrove tout autour. Donc, on s'est un peu baladé dans la mangrove, dans le village. On a fait des petites balades et puis on a surfé. Mais là, typiquement, j'aurais préféré ne pas aller à Travessia et passer. J'aurais pu passer une semaine, moi, à Poméné.
Effectivement, ça devait être bien.
Ouais, franchement, surfer, se balader, manger avec Yann. Chez Yann, il a un four à pizza.
C'est lui qui faisait à manger?
Ouais.
Alors, qu'est-ce que vous avez mangé?
Alors, on mangeait pas mal de poissons grillés. Hein. J'ai un gros trou. J'ai un peu honte. J'ai un énorme trou. Après, ils mangent beaucoup de choses en curry, avec du riz.
Vous avez bien mangé?
Ouais, c'était très bien. Et puis surtout, il y avait tous ces poissons. On a mangé vachement de poissons grillés. On a mangé... Alors, en fait, c'est rigolo parce que il y a des endroits donc, où il y avait beaucoup de langoustes. Donc, on a mangé des langoustes. Et puis après, quand on monte un peu plus haut vers Vilancoulos, il n'y a plus de langoustes, mais il y a des crabes. Et donc là, on s'est mis à manger du crabe.
Faut s'adapter.
Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a croisé des gens sur la route qui avaient une glacière et qui transportaient, parce que du coup, entre par exemple Dune de Dovella et Vilancoulos, donc Dune de Dovella, c'est les langoustes, et Vilancoulos, c'est le crabe. Et il y a des hôteliers, enfin des hébergeurs, enfin des gens qui ont des guest house là, qui se connaissent. Et donc, ils confient une glacière avec du crabe pour faire descendre du crabe à Dune de Dovella. Et Thomas de Dune de Dovella donne à des touristes qui vont dans l'hôtel de leurs copains des langoustes. Voilà, il y a un échange de bons procédés.
C'est ça, ils utilisent les touristes pour faire monter et descendre la nourriture.
Exactement.
Énorme.
Donc là, on mange bien parce qu'il y a beaucoup de fruits de mer aussi. Et puis, ils mangent du poulet, comme dans beaucoup de pays, en curry.
Poméné Beach, donc tu as dit que tu les avais trouvés via les deux autres familles et que l'agence t'a dit mais pourquoi? Mais en fait, ils finissent par les trouver, ils n'envoient jamais de touristes donc dans ces endroits-là. C'est vraiment, il faut leur demander.
C'est peut-être la limite d'une agence, hein, ou en tout cas, moi c'est la première fois que je passais par une agence, mais ils ont quand même des standards, ils ne peuvent pas envoyer n'importe qui, n'importe où.
Je suis d'accord, absolument. Et c'est tout l'art de l'agence, justement, de savoir où est-ce que tu vas te sentir bien par rapport au brief que tu as fait.
Typiquement, pour arriver à Poméné, il faut savoir quand même, il faut ne pas avoir peur de se lancer dans 2h30 de piste avec des endroits où ça ne capte pas. Hein. Tout le monde, ça ne nous pose aucun problème. Donc, on savait que c'était pour nous. Il y a d'autres gens, moi je sais que j'ai déjà discuté de mon voyage avec des copains hein, qui m'ont dit « Ah non, moi jamais, hein. Enfin franchement, non. » Parce que je serais trop stressée en fait de me dire que... Voilà. Donc voilà, donc effectivement, envoyer des gens à Poménée quand l'agence ne connaît pas les gens, mais quand c'est compliqué.
Bien sûr.
Et à Poménée, il y a rien, hein, donc non mais c'est pas du mainstream quoi, c'est pas quelque chose qu'ils peuvent. Et après, je sais même pas s'ils avaient déjà été, clairement, ils avaient même jamais été. Par exemple, à Kisiko, en fait, Kisiko c'est un village sur la route, mais c'est l'endroit où on a dormi chez Boulboul, c'est Kisiko, parce que le plus proche c'est Kisiko, mais en fait c'est même pas Kisiko, c'est Didéric qui s'est dit tiens je vais mettre ma maison là.
Là
c'est bien, mais en fait il y a rien, donc si tu vas pas dormir chez eux, tu n'y vas jamais dans cet endroit. Donc l'agence elle connaissait pas cet endroit là, mais c'est pas du tout une critique, hein, c'est que
non bien sûr. Et on est bien content que des familles autour du monde découvrent ces endroits et qu'ils en parlent sur les réseaux et qu'on puisse les découvrir à notre tour. Ça, c'est le bon côté des réseaux.
Mm-mm. Ouais, ils défrichent. Hein, ils ont le temps d'aller défricher.
C'est ça.
Poménée, franchement, si on ne prend pas le temps de... Enfin voilà, il faut être sûr de son coup parce que quand on fait 2h30 de...
Mais oui. Mais eux-mêmes avaient dû le trouver quelque part, j'imagine.
Ouais, mais je pense que c'est des bons plans qui se... C'est pareil, c'est du bouche à oreille.
Ouais, tout à fait. Et après, alors, on va où après ?
Alors, c'est la dernière étape, c'est Villancoulos. Donc là, c'est une ville, hein. Il y a même un aéroport à Villancoulos. On a découvert un touriste, notamment de lune de miel, de gens qui arrivent à Villancoulos et qui ne font que Villancoulos. Il y a des hôtels, il y a des très beaux hôtels.
Quel dommage.
Ouais, alors après, ça reste le Mozambique. Par exemple, c'est une ville, hein, mais une ville hyper, pas du tout touristique au sens où rien n'est fait pour le touriste. C'est avant tout un grand marché dans le centre-ville qui est hyper sympa parce que hyper vivant. En fait, c'est quand même chouette. Moi, j'étais hyper contente de me retrouver aussi dans un endroit où, pour le coup, on n'est pas dans la nature, on est dans la ville. Et c'est une ville qui est hyper locale. Hein. C'est, les gens, ils ne sont pas là pour... Enfin, il y a des beaux hôtels, mais au-delà de ça, à l'intérieur de la ville, c'est 100% fait pour les locaux, avec une activité 100% dédiée aux gens qui vivent là. Donc, c'est un marché hyper sympa. On n'a rien à acheter, nous, en tant que touristes, mais c'est hyper sympa de s'y balader. Il y a quand même plein de rues dans Villancoulos qui sont des pistes. Donc ça reste une ville et il n'y a pas de restaurant. On a été dans un restaurant qui s'appelle Léopoldina, qui est un restaurant dans le sens où on arrive et on se fait servir, hein. Mais on est clairement chez Léopoldina, hein. Et il y a deux tables.
Ah oui, réserver, ils ont internet.
Faut pas réserver, enfin il n'y a pas besoin de réserver, on était tout seuls nous quand on est arrivés. Alors c'est clairement dans son jus, hein. Et franchement, si on m'avait pas conseillé d'y aller, j'aurais jamais osé manger là.
Et vous avez mangé quoi, tu t'en souviens ?
Non.
Oh là là !
J'ai honte.
Non, c'est pas grave.
C'était super bon en plus.
C'est le principal.
On s'est régalé. Je conseille aux gens d'aller chez Léopoldinas. Il y en a un autre qui s'appelle Zita, qu'on n'a pas eu le temps de faire, qui est exactement visiblement du même acabit, même genre de boui-boui. Mais voilà, c'est très bon. Il faut aller au-delà du cadre qui est pas, qui est déroutant, mais qui est c'est un boui-boui quoi.
C'est un boui-boui, c'est ça.
Un boui-boui, voilà. Mais c'est très bon. On s'est régalé. Voilà. Mais donc il n'y a pas de restaurant autre que ce genre de choses en fait. À donc c'est une ville avec des hôtels beaucoup plus luxueux si on en a envie, mais ça reste vraiment pas du tout touristique. Alors là, par contre, il y a plein de choses à faire. C'est aussi pour ça que les gens restent longtemps. Hein. C'est que d'abord, ce qui est vraiment très, très sympa, c'est que c'est, comme je le disais, c'est une ville qui vit au rythme de la pêche et des marées. Donc, tout est tourné autour de cette plage qui est incroyable, magnifique, avec une eau sublimissime. Et en fait, la marée se retire sur des... Je ne sais pas, sur très très loin, je ne sais pas, je ne saurais pas dire, je ne veux pas dire de bêtises. Et restent des barques de toutes les couleurs qui sont posées comme ça sur le sable. Donc ça appelle à des super balades. On peut se baigner hein, quand la mer est haute. On joue au foot quand la mer est basse. C'est vraiment, très très chouette. Et en face de Villancoulos, il y a un endroit dingue qui s'appelle l'archipel de Bazaruto. Que j'avais vu une fois dans une émission un peu bling... Non, je ne sais plus, je vais dire une bêtise, mais je ne l'ai pas en tête, parce que j'avoue que je ne la regarde pas souvent, mais sur la 1, avec Nikos, où ils adorent montrer des endroits avec des...
50 minutes inside.
Voilà, avec des hôtels...
de dingue.
Jamais les moyens d'aller. Mais de dingue, enfin par contre très beau. Et là, typiquement, bah, je crois qu'il y a des hôtels sur l'archipel de Bazaruto et je l'avais vu en fait dans cette émission. C'est une eau magiquissime avec des îles. C'est des dunes qui tombent à pic dans l'eau. Et il n'y a pas d'hôtel. Enfin, si, donc c'est un archipel, donc il y a plusieurs îles. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule qui est un peu habitée ou avec des hôtels, enfin, où le commun des mortels ne peut pas dormir. Mais si vous avez les moyens, par contre, ça vaut sûrement le coup d'y dormir. Mais parce que c'est des hôtels luxe, dans tout ce que le luxe peut avoir parfois de sublimissime, quoi. C'est pas des grosses structures. Voilà, je pense qu'il y a c'est des bungalows de luxe sur la plage, mais c'est pas vraiment accessible. Mais voilà, donc cet archipel, on y va à la journée. Donc on peut faire, enfin voilà, à Bazaruto, à Villenclose, pardon, on peut faire des excursions à la journée en bateau. C'est un au spot de kitesurf.
C'était une bonne étape pour finir ce road trip.
Ouais, mais même, enfin, j'ai beaucoup aimé Villenclose parce que c'est hyper authentique en fait, et que ça fait du bien d'être, de se prendre un peu l'énergie de la ville quand on a passé 3 semaines dans des cabanes perdues au milieu de la nature. C'est complémentaire, c'est chouette.
Et vous aviez trouvé un endroit sympa, enfin l'agence avait trouvé un endroit sympa pour dormir.
Alors, c'est pas l'hôtel que j'ai préféré, mais il y en a un où j'aurais rêvé dormir, qui est assez cher, mais qui est vraiment très très chouette, qui s'appelle Casa Babi, je crois qu'ils ont 4 chambres, et ils sont vraiment posés sur la plage où il y a tous les pêcheurs, voilà, et quand on booking dehors, et donc c'est un mini jardin qui donne sur la plage.
Ah, sympa.
Ouais, c'est très très sympa, c'est une adresse qui est prise d'assaut, donc c'est un peu ce que je dis dans mon article sur Voyage Family, c'est que typiquement, ça vaut le coup de réserver ce genre d'adresse. En fait, il ne faut même pas se poser la question. Enfin, si, encore une fois, si vous avez les... Parce que c'est des adresses qui sont assez...
Un peu plus chères, oui.
Un peu plus chères. Mais là, ça vaut le coup de réserver tout de suite. S'il y a de la place, ça vaut le coup de prendre et de réserver tout de suite.
Et de faire le voyage autour.
Ouais. Non, mais ça fait partie des endroits qui font aussi qui améliorent l'image qu'on a d'une étape. Mais il y a plein d'autres, franchement, il y a plein d'adresses hein, sur Villenclose. C'est pas. Moi, je conseille plutôt d'aller chez Baobab Beach Backpackers, qui est justement à côté de Casa Babi, mais qui est un hôtel de backpackers. Enfin, un hôtel, non, c'est pareil, c'est des cabanes, hein, mais c'est un guest house de backpackers avec.
C'est pas le même budget.
C'est pas le même budget. Mais c'est très sympa aussi.
Du coup, c'est la fin du voyage ?
C'est la fin du voyage.
Comment vous rentrez d'un voyage de 3 semaines au Mozambique ?
C'est-à-dire ?
Est-ce qu'il y a de la nostalgie ? Est-ce que c'était tellement différent de ce que vous aviez pu voir avant que vous en gardez quelque chose de différent ? Je ne sais pas, en fait, je ne pose jamais cette question. C'est, voilà, elle est venue comme ça.
Non, bah, ressourcée à mort, on avait beaucoup travaillé. On a des vies speed, très, très... heureuse d'avoir pu ralentir. Comme il n'y a pas grand-chose à faire, bah mine de rien, on a passé des moments, encore une fois, hein, c'est vrai qu'à 4, bah le soir, quand il n'y a rien à faire, bah on joue, on a fait beaucoup de jeux, j'ai beaucoup lu, moi j'ai fait beaucoup de méditation et de yoga le matin en regardant le lever de soleil. Je suis ni une lève-tôt, qu'on soit bien clair, ni du genre à me lever pour aller regarder le soleil, voilà. Mais là, ça m'a vraiment emportée et donc on rentre bah, totalement ressourcée. On a vraiment ressourcé aussi par le fait de vivre justement avec le lever du soleil, le coucher du soleil, d'être tout le temps dans la nature. C'est ça qui nous, franchement, moi c'est ça qui m'a manqué le plus. C'est ce que j'ai dit en rentrant, c'est que ce qui m'a manqué le plus, c'est de pas vivre avec le soleil en fait. Alors, tout le monde m'a dit, t'as qu'à te lever pour regarder le soleil. Ben oui, mais en fait, on n'a pas la vie qui
c'est
va.
C'est pareil.
Puis on se couche à minuit. On n'a pas envie de se lever à 5h du matin.
Enfin, non, c'est pas vraiment. ou de temps en temps, mais faut être sûr, quoi.
Non, mais voilà.
Si tu devais retenir vraiment qu'un seul endroit, un seul moment de ces 3 semaines, ce serait où et quoi ? Un seul.
C'est pas facile. Comme ça, là, sans trop réfléchir, je dirais peut-être le moment qu'on a passé chez Bulbul Guest House à Kisiko pour les rencontres.
Et tes enfants, est-ce qu'ils ont eu des coups de cœur ? Qu'est-ce qui les a marqués le plus pendant ce voyage ?
Je ne leur ai pas posé la question.
À ton avis?
Bah, vivre... Mon fils, je crois qu'il n'a pas mis une seule paire de chaussures pendant 3 semaines. C'est-à-dire que même dans la ville de Villancoulos, on lui disait quand même, là maintenant on est dans une ville, tu peux peut-être mettre des chaussures. Il me disait, oh non, c'est pas la peine. Alors il les mettait quand même vraiment quand on râlait, qu'on était vraiment sur le bitume. Et on n'a pas marché sur le bitume pendant 3 semaines, quoi. Donc on était dans le sable, on est tout le temps dans le sable. Et je pense que ça, vivre à la... C'est un peu, on a vécu une robinsonnade pendant 3 semaines.
Génial.
Je pense que ça, ça les a... Enfin, ils adorent. Et c'est clair qu'il n'y a pas trop de wifi, on n'en a pas trop parlé, hein, mais...
Mais oui, d'ailleurs, faut le gérer ça avec des ados.
Alors ils sont, voilà, j'avoue que j'ai des enfants cool là-dessus, c'est que c'est des ados, c'est-à-dire que quand il y a du wifi, bah, ils sont comme tous, ils aiment. Mais quand il n'y a pas, ils aiment bien la nature.
Ok. Côté budget, tu l'as dit, c'est pas un voyage forcément bon marché. Tu peux nous donner une idée?
Alors, nous, ça nous a coûté 4000 euros par personne pour 3 semaines. Ce qui coûte cher, c'est la voiture. Pas l'essence, mais la location de la voiture. Alors, nous, on a... Voilà, il y a moyen de se faire vraiment très plaisir sur les hébergements. Ça peut encore monter encore plus cher que ça. L'avion aussi nous a coûté extrêmement cher. C'était tout compris, hein, 4000 euros. Mais je crois que l'avion nous a coûté... Je ne sais plus exactement, mais je dirais 1300 ou 1400 euros. Il y a un visa, donc 75 euros, je crois, de visa par personne. Il y a de la Malarone à prendre, un antipalu. Ce n'est pas donné. C'est clairement un voyage qui coûte cher.
C'est un beau voyage.
C'est un voyage sublimissime. Et quand je vois, donc je collecte beaucoup de demandes de devis de famille. Mm-hmm. J'en ai à peu près 10 qui tombent par jour sur la Tanzanie. Quand je vois le prix de la Tanzanie...
Mais c'est hors de prix, la Tanzanie.
C'est-à-dire qu'on est plutôt sur 3000... On est plutôt sur ce budget-là pour 15 jours. Je me dis que...
C'est pas la même chose, mais bon.
Non, c'est pas la même chose, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est un voyage aussi exceptionnel pour d'autres raisons que la Tanzanie. C'est pas un voyage qu'on fait... l'année prochaine, on partira sûrement moins loin. On fait pas ça tous les ans. Et je suis vraiment contente qu'on se soit offert ça. On n'a jamais été en Tanzanie. Voilà, aujourd'hui, j'avais plus envie de m'offrir un voyage au Mozambique qu'en Tanzanie. Et je suis vraiment très, très contente que ce soit offert, ça.
Ben en tout cas, ça s'entend. Ça donne envie. Avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager encore un peu, mais dans d'autres destinations. Quel pays as-tu visité sans les enfants et dans lequel tu retournerais volontiers avec eux?
Il y en a plusieurs. Enfin, je pense à deux comme ça tout de suite. Il y a l'Inde. J'ai eu la chance de visiter 2 fois, une fois avec mes parents quand j'étais plus jeune et une fois avec mon ami qui est devenu mon mari, qui m'a d'ailleurs demandé en mariage en Inde.
Ah oui, joli.
Donc ça, c'est un pays que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien. Je trouve que maintenant, les enfants, justement, ils ont l'âge, ils ont 12 et 14 ans, ils ont tout à fait... c'est facile pour nous de les emmener en Inde. Et il y a le Bénin que j'avais fait dans le cadre... un reportage pour Voyage Family avec une agence qui s'appelle Double Sens, qui propose des voyages solidaires.
Ah, très bien.
Et j'avais été tester un de leurs voyages au Bénin. Et j'ai tout simplement adoré. J'y retournerai. Alors ça, c'est l'Afrique. Ça n'a rien à voir avec le Mozambique. C'est l'Afrique de l'Ouest, avec peut-être plus l'image qu'on a de l'Afrique, hein, avec beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, c'était très, très différent. Mais j'ai adoré ce pays et je me dis que j'aimerais bien le faire découvrir à mon mari même et puis à mes enfants.
Plutôt mer ou montagne?
Alors, historiquement, plutôt mer. Non, plutôt montagne, pardon. Même, je n'aime pas spécialement la mer, à vrai dire, puisque j'aime pas trop me baigner. Enfin, je suis plutôt une sportive. Mais de plus ça va. Enfin, j'ai découvert le surf à la cano,
oui.
J'ai eu l'occasion d'en parler ici dans un autre épisode. Et depuis, je suis assez fan de l'océan quand même.
Quand même.
Ouais. Et j'avoue que si maintenant je devais m'installer quelque part, ça serait peut-être probablement plus au bord de l'océan qu'à la montagne. Gros changement. Si mon mari écoute ça, il va tomber de sa chaise.
Votre prochaine destination en famille?
Alors, c'est pas hyper clair encore, on sait pas tout ce qu'on fait cet été, mais il est possible qu'on aille en Grèce.
Ah, bah, ce pays est magnifique. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast?
Eh bien, j'ai peur de dire une bêtise si tu l'as déjà fait.
Pas grave.
Mais on parlait de l'Égypte en off tout à l'heure, avant dans le début de l'épisode. Donc, c'est un pays que j'aime beaucoup, beaucoup et que je rêverais de visiter avec mes enfants.
Eh bien, écoute, nous avons effectivement déjà un épisode avec Aurélie qui a fait, qui est allée en Égypte l'année dernière et... spoiler alerte, j'y vais en avril, donc il y aura forcément un épisode derrière. Donc oui, l'Égypte, c'est bien. Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver?
Ah bah là, il y a
ils n'ont pas compris.
Donc on a un site internet qui s'appelle voyagefamily.com avec vraiment du contenu hyper détaillé, hyper inspirant. Enfin en tout cas, on
absolument.
Essaye sur des destinations France, Europe et monde. Et ils peuvent d'ailleurs retrouver tout le détail de notre voyage au Mozambique. J'ai vraiment fait un article super précis sur toutes les adresses, tous mes conseils, peut-être que je n'aurais pas évoqué là. Et puis sur les réseaux sociaux, bien sûr, donc Instagram, Facebook, on a un forum aussi sur Facebook, sur la newsletter qui part normalement deux fois par mois, mais on est en train d'augmenter un peu la cadence. Et puis, bah, bientôt, d'ici quelques semaines, sur le podcast, donc
mais
sur
oui.
Toutes les bonnes plateformes, comme on dit, c'est ça?
C'est ça, c'est ça. Vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas trouver Caroline, ce n'est pas possible. Elle est partout.
Un voyage famille, en tout cas.
C'est pareil. Il y a plus de monde, il n'y a pas que toi, mais c'est quand même toi qui as créé tout ça.
Oui.
Eh bien, écoute, merci beaucoup, Caro, pour ce beau carnet de route au Mozambique.
Eh bien, merci de ton invitation. J'étais ravie de me replonger dans tous ces beaux souvenirs.
Eh bien, ça nous met un pays de plus sur la liste.
Ouais.
Merci beaucoup. Merci à bientôt.
À bientôt, Stéphanie.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, bah dites-le moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Alors je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors à votre bon cœur, monsieur dame. Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec un S.com. Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage? Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière? Retrouvez-moi sur Instagram, à famille et voyage, toujours avec un S, _, blog. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous, et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.